Il fallait que je prenne la moitié d'une bouteille d'un litre et demi de vin pour me sentir bien. Puis je buvais la moitié de la bouteille, j'attendais une demi-heure et après ça allait mieux. Ça repartait, mais sans ça, je pouvais pas décoller. Hein. C'était comme si il n'y aurait plus d'essence dans le moteur d'une voiture. Hein. C'était la même chose. Hein. Il fallait du gasoil pour décoller. Hein.
Podcast by Tendance Ouest. Fait de vie. Philippe Bertin.
Bonjour, je suis avec Lionel Droniou. Lionel, vous avez 64 ans, vous vivez ici au foyer de l'entraide Sainte-Marie, vous avez votre appartement et vous êtes l'auteur d'une crèche absolument magnifique qui a été installée dans la chapelle de l'entraide Sainte-Marie. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née cette crèche de Noël?
Cette crèche de Noël, c'est que avant les personnages, on les mettait là-haut dans le réfectoire. Et après, avec laïcité, on n'a plus pu faire là-haut dans le réfectoire. Donc, avec mon ami Gilbert, un jour, on s'est dit, en réfléchissant, on s'est dit, pourquoi avec les personnages, on ne ferait pas une crèche à la chapelle? Et donc, l'idée nous est venue de là. Et au début, on a commencé par petit peu, c'est-à-dire avec ce que vous voyez là, qui est en bois. Au début, c'était un petit truc avec un truc en carton, et puis quelques petits personnages et quelques petites maisons. Et puis vous voyez maintenant, au fur et à mesure des années, ça s'agrandit.
Cette crèche, elle compte beaucoup pour vous?
Ah oui, très, très, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors vous m'avez dit, vous priez beaucoup, vous croyez, vous avez chez vous d'ailleurs la photo du pape François et également une photo de Sainte Thérèse de Lisieux. Cette foi, ça représente quoi pour vous?
Ça représente beaucoup parce que je me dis qu'il faut croire. Parce que ça, en croyant, ça, en priant... La prière apporte toujours quelque chose quand on veut se sortir de quelque chose.
Alors vous êtes sorti d'un long parcours de vie, de vie de quelqu'un qui était dans la rue. Vous avez vécu d'ailleurs plusieurs Noëls dans la rue. Vous étiez un sans domicile fixe. Vous avez vécu des années dans la rue, au Havre et puis à Rouen. Et vous en êtes sorti depuis 2005. Vous êtes résident ici au foyer. Vous avez votre appartement. Mais... comment vous êtes dégringolé? Comment vous avez dégringolé pour vous retrouver dans la rue?
J'ai dégringolé dans la rue à cause de problèmes familiaux. Hein. Et à cause de certaines bêtises, problèmes familiaux. Mais on dégringole vite, hein. Ça je peux vous le dire. Et puis la boisson. Alors là, la boisson, ça y va. On fait plein de trucs qu'on se rend pas compte. Et puis qu'un jour, on paye.
Votre vie, c'était quoi avant d'être ici, avant de réaliser cette crèche, quand vous étiez dans la rue? Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passait dans la rue, justement?
Ma vie dans la rue, c'était la manche, et puis boire, et rien foutre.
Vous m'avez dit, il n'était pas rare que je démarre la journée avec un litre ou un demi-litre de vin dans le gosier pour ne plus avoir la tremblotte et pour pouvoir réussir à me lever. C'était à ce point-là?
Ah oui, ça je peux vous le certifier que je pouvais pas, j'avais la tremblotte le matin, il fallait que je prenne la moitié d'une bouteille d'un litre et demi de vin pour me sentir bien. Puis je buvais la moitié de la bouteille, j'attendais une demi-heure et après ça allait mieux, ça repartait, mais sans ça je pouvais pas décoller. Hein. C'était comme si il n'y aurait plus d'essence dans le moteur d'une voiture, hein. C'était la même chose, hein. Il fallait du gasoil pour décoller. Hein.
Et alors, vous avez rencontré des gens qui viennent épauler, accompagner les gens de la rue, notamment l'association Le Lien. C'est ce qui vous a sauvé, vous, de votre situation?
Oui, c'est Arlette qui m'a sauvé. C'est Le Lien, c'est la rencontre avec Le Lien et surtout la peur. Je peux vous dire que la peur.
Comment ça, la peur?
La peur de que je pouvais plus marcher, de me retrouver dans une siège longue, et puis dans un fauteuil roulant, et puis comment ça s'appelle, plus pouvoir marcher, et puis aussi... je m'apercevais que j'avais vraiment les jetons. Et puis là, je m'apercevais aussi que, parce que quand on est chrétien, on pense à une seule chose, que le Seigneur là-haut, il voit qu'on a déjà le pied qui est dans une tombe et puis que l'autre, il commence à glisser. Il est temps qu'on réfléchisse.
Alors, une nuit ou un matin, vous vous êtes réveillé justement en réfléchissant. Il vous est arrivé quelque chose dont vous dites aujourd'hui que c'était peut-être un signe de Dieu. Racontez-nous.
Ah oui, oui, oui. Moi, je vous dis ça, on va peut-être me prendre pour un fou. J'espère qu'on ne va pas m'enfermer à Saint-Étienne du Rouvray. Mais c'est vrai ce qui m'est arrivé. Ce que vous dites là, ça m'est vraiment arrivé.
C'est-à-dire
bah, en pleine nuit que je me suis réveillé, quelque chose qui s'est passé dans ma tête, je ne sais pas quoi.
Vous étiez dans la rue, hein?
Oui, j'étais dans la rue, j'étais couché sous une couverture. Et puis je me suis levé d'un seul coup, et puis je tremblais de partout, j'avais peur. Je me demandais bientôt s'il m'avait été promis un coup de marteau sur la tête. Et je me suis rallongé, et le lendemain matin, c'est là que je me suis assis sur le bord du trottoir, que j'ai commencé à regarder les gens, et que je me suis dit, pourquoi que je ne ferais pas que moi, j'irai pas chercher mon pain, mon café, boire, discuter avec ces gens-là, être normaux comme eux, pouvoir discuter avec des gens bien. Et c'est comme ça, c'est ce qui est devenu comme ce truc. Et pour moi, on pourra dire ce qu'on veut, mais pour moi, c'est un signe du Seigneur.
Et vous êtes arrivé ici au foyer, et ici vous avez rencontré des gens formidables qui vous ont aidé, d'abord à vous passer de l'alcool, et puis aussi à vous reconstruire.
Ah oui, ici l'encadrement de l'URA, c'est formidable. J'ai rencontré Afid qui m'a beaucoup aidé, mais il n'y a pas qu'Afid, hein, il y a tous les animateurs, il faut les mettre tous au point. Parce que premièrement, dès que vous arrivez là, que vous arrêtez de boire, c'est très 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 dur pendant 2 ans. Mais ils sont là, ils sont dans leur bureau, vous pouvez aller discuter avec eux. Bon, dès que vous arrivez là, vous avez tout de suite 2 animateurs qui sont pour vous, qui vous ont sur leur aile. Moi j'avais Afid et Aline, donc ils s'occupaient bien de moi, on refait tous mes papiers parce que j'avais plus de papiers, ils me surveillaient, mais attention, surveillaient pas comme la police, hein. Mais en plus ils étaient là, et il y avait tous les autres animateurs, parce que le foyer de l'URA, c'est un foyer où une personne qui veut s'en sortir, c'est un encadrement idéal pour pouvoir s'en sortir. Ils sont là, ils sont à l'écoute, ils sont prêts à... Il y a un docteur, il y a les infirmières, il y a même les soins médicaux, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir.
Et vous avez le sentiment, vous, Lionel, de vous en être sorti?
Là, maintenant, oui. Oui. Maintenant, je suis sûr.
Et vous n'avez plus jamais touché à une goutte d'alcool?
Jamais la vie.
Et vous ne voulez pas toucher un verre d'alcool?
Non. Même pas un bonbon au chocolat à l'alcool. Alors, c'est pas pour toucher un verre d'alcool.
Fait de vie, Philippe Bertin.
Vous m'avez dit que... voilà 15 ans que vous êtes ici au foyer, que vous vivez, que vous avez votre appartement au foyer. Et voilà 15 ans que chaque année, durant l'été ou à l'hiver, vous avez des petits coups de blues, vous avez des petits coups de mou. Parce que y a plein de choses qui passent dans votre tête, et notamment des souvenirs d'enfance et des souvenirs de jeunesse, des souvenirs de votre petite sœur qui n'est plus, qui est décédée et qui vous manque. Y a des moments comme ça de morale assez bas.
Oui. Bah, au début, je sais qu'au moment de l'été, ça m'arrive, au moment de l'hiver, ça m'arrive. Et puis, à des moments, j'ai des coups de cafard. Mais ça, c'est normal. On est tous des êtres humains, et ça arrive. Il y avait même mon docteur, là, que j'ai perdu, mon docteur, le docteur Casabiel, qui était mon docteur, qui m'a pris dès le départ sous son aile, ici, quand je suis arrivé, qui m'avait dit, quand ça m'arrivait, qui m'avait dit, t'es sûr qu'il ne s'est pas passé quelque chose à ces époques-là, ou c'est que t'as un petit coup de mou? J'ai dit, non. Mais de toute façon, je sais à quel moment que ça m'arrive, je sais que quand ça va m'arriver, je sais que je vais avoir un coup de mou, tout ça, je fais attention à moi, je me protège et puis c'est tout. Mais ça passe. Il faut se dire, au début que ça m'arrivait, au début que j'avais arrêté de boire, que ça m'arrivait, les premières années, ça pouvait durer 8 jours, 4 jours, 7 jours. Mais là, maintenant, ça me dure quoi? Une journée, 2 jours, et puis ça passe. Hein.
Le début de la dégringolade, vous m'avez dit, c'est la débandade quand on est dans la rue. Ça a commencé quand vous étiez jeune, vous aviez 18 ans, 18-20 ans, et vous avez été mis à la porte, parce que vous faisiez des bêtises, vous avez été mis à la porte de la maison familiale. Et quand vous repensez à cette vie-là, c'est une vie gâchée?
Ah oui, c'est une vie foutue en l'air. C'est pour ça qu'il y a des moments que quand je vous dis que je remets des trucs de ma tête, je remets ça sur le tapis. Hein. Parce que on se dit toujours, quand on est jeune, on dit toujours, on sort, on a les copains, on a tout ça, on dit, on peut boire, hein. Qu'est-ce qui va nous arriver? Rien ne va nous arriver. Alors on boit, on se rend compte que plus tard, on a les conséquences qu'on suit. Parce que un verre, on dit on boit un verre, on boit une bière, on boit 2 bières quand on est jeune, on boit 3 bières, après 4 bières, après 5 bières. Mais il ne faut pas oublier qu'après le corps, il est... Et puis, c'est dégringolade. C'est la dégringolade. Mais la dégringolade, elle peut, des moments, elle peut être dure. Comme moi, j'ai souffert.
Vous m'avez dit, j'étais pouilleux, j'étais crasseux, j'avais les cheveux longs, j'avais une barbe jusqu'aux genoux. Vous étiez un autre homme avant.
Ah oui. J'étais clochard. Il y a même une dame qui a une photo de moi que quand je suis arrivé ici, elle ne veut même pas me la faire voir. Parce qu'elle a peur que ça me fasse un déclic, que ça me fasse quelque chose. Mais je dis, mais non, je ne te la ferai pas voir. Donc, j'étais pas... Je m'en foutais. Mais je voulais pas... Je me rappelle quand je suis arrivé ici, pour me faire prendre une douche, pour me faire couper les cheveux, couper la barbe, c'était tout un... C'était un cinéma. Hein.
Quand vous voyez aujourd'hui des gens dans la rue qui font la manche, que vous allez voir d'ailleurs, je crois que vous les accompagnez parfois, puisque vous faites partie d'associations pour aider les gens de la rue, les sans-abri, les sans-domicile fixe, vous avez envie de leur dire quoi ?
Qui, aux gens ?
Oui.
Que maintenant, que quand on voit quelqu'un dans la rue, il faut essayer de l'aider. Parce que moi, je me dis toujours que maintenant, on voit certaines personnes que quand ils voient un SDF, parce qu'il ne faut pas dire un clochard, on dit SDF. Quand on voit un SDF dans la rue maintenant, je vois la plupart des temps, ça m'énerve. C'est que je suis en train de me promener dans Rouen, je vois aussi bien certains jeunes ou n'importe quoi mettre un coup de pied dans une gamelle. Un SDF. Mais ça sert à quoi? Je me dis, la personne qui est assise là, qui est SDF, elle souffre déjà. Donc elle a déjà eu un problème dans sa vie, elle a déjà souffert dans sa vie. Pourquoi me jeter un coup de pied dans sa gamelle, la faire souffrir encore en plus? Donc le monsieur, il est encore plus malheureux, il souffre déjà de la vie, il est encore plus malheureux. Pourquoi le rendre plus malheureux au lieu de lui faire un petit bonjour ou un petit sourire? Ça coûte quoi? Maintenant, je me dis toujours que moi, je dis pour de certaines personnes, pour les jeunes ou n'importe quoi, eh ben, au lieu de agresser des SDF ou faire quelque chose aux SDF, si on a envie de se défouler, il y a des salles de boxe, ben allez vous défouler dans les salles de boxe.
Vous m'avez dit aussi que la dégringolade, la débandade, ça peut aller très vite.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on peut tomber du jour au lendemain.
Vous descendez plus vite que vous remontez, hein. C'est plus facile à descendre qu'à remonter. Hein. Parce que pour descendre, pour vous casser la figure, en 8 jours de temps, vous vous cassez la figure. Mais pour remonter, il vous faut plus de 8 jours pour remonter. Hein.
Vous faites aujourd'hui des animations, on peut dire ça, ou des conférences plutôt dans les écoles. Vous racontez votre parcours de vie de clochard que vous avez été pendant de nombreuses, très nombreuses années, pendant plus de 15 ans. Et vous êtes très heureux de recevoir plein de témoignages en retour d'enfants chez vous, dans votre appartement. Vous conservez des petits mots qui vous sont adressés par les enfants. Ça vous touche ?
Bah oui, ça me touche parce que les enfants... je vois qu'ils sont à l'écoute, parce qu'il ne faut pas mettre toute la même jeunesse au même point, parce que je vois les enfants, il y a certains enfants, ça les touche. Je me dis peut-être que dans leur famille, il y a aussi des problèmes que moi, les parents, on ne sait pas. Et je trouve que ça me fait quelque chose, ça me remet encore, ça me donne plus encore de force pour aller encore plus loin.
Vous avez fêté plusieurs Noëls dans la rue. Depuis maintenant plusieurs années, vous fêtez Noël ici à la résidence, mais vous le fêtez jamais seul. Vous le fêtez avec vos copains, les gens de la rue, les gens qui sont ici hébergés dans le foyer, c'est ça ?
Oui, mais c'est pas les gens de la rue. Hein. Ce sont des gens qui sont au foyer maintenant. Mais je peux pas me passer d'eux. C'est mes copains. C'est pas parce que je suis parti que je suis maintenant je suis abstinent et j'habite dans un studio n'importe quoi que je suis plus fort qu'eux. C'est pas vrai, je suis pas plus fort qu'eux. Ce sont mes copains, ça restera toujours mes copains. Parce que je vais vous dire quelque chose, M. Bertin, c'est que pour jamais se croire plus fort que quelqu'un d'autre quand on arrête de boire, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est, on est abstinent, mais on n'est pas guéri de l'alcool, parce que l'alcool, c'est une maladie. On n'est pas guéri, on n'est pas sauvé de l'alcool, sauf qu'on est abstinent. C'est pour ça que je me dis toujours qu'on ne sait pas qu'est-ce que je peux apprendre ou qu'est-ce qu'on peut savoir demain. Il suffit qu'on apprenne une mauvaise surprise ou n'importe quoi. On peut se casser vite, faire la tronche. Hein. C'est pour ça que mes copains ici sont toujours mes copains et resteront toujours mes copains. Je ne suis pas plus fort qu'eux.
Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'année qui vient, Lionel ?
Que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça. Et puis que j'espère plus tard avoir un peu de témoignages avec vous.
Merci beaucoup.
Merci.
Bon Noël.
Merci.
Podcast by Tendance Ouest.